en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Vous asseoir. La séance est ouverte. Messieurs les ambassadeurs, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chère Catherine Boischignac, Monsieur le ministre, cher Jean-Noël Jeannet, Madame le maire du 5e arrondissement, Madame, Messieurs les conseillers, chère Caroline Barbet, Mesdames et messieurs et chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France et vous remercie au nom de tous mes confrères, membres et correspondants de l'Académie des Beaux-Arts de votre présence aujourd'hui sous cette coupole. Au cours de cette séance, M. Bruno Barbet, qui a été élu membre le 13 avril 2016 au fauteuil créé par le décret du 23 décembre 2015, sera officiellement installé dans la section de photographie de l'Académie des Beaux-Arts. Le protecteur de notre compagnie, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a fait savoir qu'il ne pouvait malheureusement pas assister à cette séance. Il m'a chargé cependant, ce que je fais avec plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations à Bruno Barbet, dont l'élection a été approuvée par décret présidentiel en date du 8 juin 2016. J'appelle tout de suite à la tribune notre confrère Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques, membre de la section d'architecture, qui va prononcer à présent le discours d'installation.
Monsieur, nous sommes dans les ruelles de la Médina de Fès, un espace particulier à l'angle de plusieurs zoukaks, une porte. La couleur vive des murs, ocre rouge, l'ombre portée des voûtements qui abritent les lieux, les passants qui déambulent. Vous êtes saisi tout à coup. Vous arrêtez là votre chemin et vous allez rester ainsi plus de 3 heures, totalement immobile, concevant votre œuvre comme un architecte peut le faire, en pleine création, réflexion, méditation. Vous attendez l'instant où la lumière, les couleurs, les passants composent précisément ce que vous avez perçu, voulu, prévu. C'est alors seulement que vous prenez la photo. Cette scène est tournée par votre femme, Caroline, réalisatrice de films. L'essence de votre démarche artistique est caractérisée par cette séquence. Vous voyez, vous remarquez, vous étudiez, vous élaborez un projet en prenant tout le temps nécessaire, en vous fondant dans le lieu, en disparaissant dans le respect de toute chose. Votre présence s'oublie et vous réalisez une œuvre pure, non seulement construite et belle, mais aussi poétique et profonde. Vous êtes né dans ce pays, le Maroc, en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Votre père est contrôleur civil. Plus tard, il sera ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Nigeria, pendant la guerre du Biafra. Vous appartenez à une famille aux personnages célèbres, dont vous avez la trempe. Votre grand-père paternel est avocat. Il fut l'assistant de Maître Laborie et travailla avec lui à la défense du capitaine Dreyfus et d'Émile Zola. Blessé à la guerre en 1917, il participera à plus de 150 meetings, le plus souvent avec Winston Churchill, pour soutenir l'effort de guerre. Du côté de votre mère, votre grand-père est le général Abel Clément Grandcourt. Le capitaine de Gaulle servit sous ses ordres en 1919 en Pologne et ils resteront très amis. Il fut plus tard gouverneur et chef de l'État du Djebel Druz en Syrie. Général à la retraite en 1939, il s'engagea pour pouvoir continuer de combattre comme soldat de seconde classe. Mais une lettre lui fut adressée avec son véritable grade et cela mit fin à la supercherie. Salé, Rabat, Marrakech, Tanger ont bercé mon enfance, écrivez-vous. Et ces villes restent incrustées de façon indélébile dans votre mémoire. Vos amis d'enfance, le battement des vagues et surtout, les couleurs modèleront votre âme. Solitaire, le regard perdu, dit-on, la tête dans les nuages, vous regardez ailleurs. Déjà, à cette époque, vous êtes capable de passer 6 heures d'affilée dans la mer pour pêcher et contempler les fonds, comme vous le faites encore aujourd'hui, plongeant en apnée à presque 30 mètres de profondeur dans la baie de Revelata, en Corse, qui est en quelque sorte votre jardin privé. Antoine de Saint-Exupéry est le héros de votre jeunesse. Vous êtes déjà épris de liberté et vous aimez cet écrivain qui mêle l'esprit d'aventure aux réflexions philosophiques. Vous voulez être pilote, l'arpenteur des nuages. Les psychologues expliquent que l'on passe toute sa vie à chercher la réalisation de ses rêves d'enfant. Aujourd'hui, il semble que vous ayez réussi à les avoir tous atteints. Mais revenons à votre jeunesse. L'adolescence est là et pour poursuivre vos études, vous devez vous rendre à Paris comme pensionnaire au lycée Henri IV. Vous vous ennuyez. J'étais un cancre et un gaucher contrarié, dites-vous. Mais vous savez occuper votre temps. Vous obtenez votre brevet de pilote et de parachutiste par respect pour les rêves que vous a apporté Saint-Exupéry, même si vous savez bien que l'évolution du métier de pilote ne répond plus à vos besoins de liberté. Vous passez surtout votre temps à la cinémathèque. Vous vouliez des relations amicales avec les futurs réalisateurs qui formeront plus tard la nouvelle vague. Comme eux, le cinéma italien vous fascine. À travers les films en noir et blanc de Sica, Rossellini, Antonioni, Visconti, Pasolini et les autres. C'est alors que vous décidez d'être photographe. Bien sûr, notre confrère Lucien Clergue n'a pas encore fondé en Arles l'Institut national de la photographie qui naîtra en 1982. Le seul établissement dédié à cet art est l'École des arts et métiers de Vevey, en Suisse, que vous intégrez à l'âge de 19 ans. Mais cette école est trop orientée vers la photographie publicitaire et commerciale. Vous avez en vous le sens de la liberté, de l'aventure, une curiosité inventive et le refus des conventions. Vous fuyez le plus souvent possible cette école pour partir vers l'Italie toute proche. Lors de vos nombreux voyages, vous allez composer une nouvelle Commedia dell'arte en noir et blanc. En effet, derrière chacun des visages que vous allez photographier, des paysans aux aristocrates, des régions pauvres du sud à l'Italie du nord, vous allez dévoiler un théâtre intérieur, un supplément d'âme. Vous direz, en parlant du comportement des Italiens, qu'ils sont d'une aisance extraordinaire, parfaitement naturelle, non gênée par l'objectif. Car vous n'avez pas saisi que c'est votre délicatesse, votre respect et votre manière d'être qui font que l'autre laisse tomber son masque et vous autorise à saisir sa vérité. Ces voyages, ces photos, seront pour vous une initiation, la découverte de vous-même et de votre langage. Une sollicitation de la pensée esthétique permet de passer de plein pied à la connaissance. Cette phrase de Claude Lévi-Strauss me semble décrire le nouveau chemin que vous allez emprunter à partir de vos travaux sur les Italiens. Nous sommes en 1964. Vous avez 23 ans et l'agence Magnum va commencer à vous confier des reportages. Faire partie de cette agence internationale est un long chemin. Il n'y a à cette époque que deux photographes français qui en font partie, Henri Cartier-Bresson, l'un de ses fondateurs, et Marc Riboud. Vous devez tout d'abord être retenu par un jury de photographes de l'agence, puis 2 ans d'observation sont nécessaires avant que, sur la base du travail réalisé, vous puissiez être coopté. Vous n'intégrez donc l'agence Magnum d'une manière officielle qu'en 1966. Vous en deviendrez plus tard vice-président pour la France et président international dans les années 90. À la fin des années 60, vous avez déjà réalisé des reportages dans le monde entier qui seront publiés dans les magazines illustres tels que Life, Time, National Geographic, Stern et Paris Match. En 1965, Edmond Charleroux, alors directrice de Vogue, vous envoie au Brésil pour un reportage. Vous deviez y séjourner 15 jours, vous y resterez 3 mois. Vous retrouvez là les émotions intenses de votre enfance. L'agence Magnum ne produit des photos qu'en noir et blanc, la couleur étant jugée commerciale. Ici, elle s'impose. Vous allez tout changer. Mais vous ne voulez pas travailler pour cette couleur que sur pellicule Kodachrome. Celle-ci résiste à la chaleur, à l'humidité et ne s'altère pas avec le temps. Ces pellicules sont longues à développer et nécessitent des laboratoires spécialisés. C'est grâce à l'avion Concorde et à ses vols quotidiens sur Rio que ces délais de développement seront rendus acceptables. Afin qu'elles puissent être publiées à la bonne date, c'est à moto que vous porterez personnellement vos pellicules au personnel d'Air France. Ce sera aussi le Biafra, la guerre de sécession au Nigeria, et au fil de votre vie, le Cambodge, la Birmanie, l'Égypte, l'Iran, le Bangladesh, les Émirats arabes unis, l'Inde, le Japon, l'Argentine, le Chili et d'autres encore. Vous chercherez tout au long de votre vie à être le témoin de votre temps. Le général de Gaulle, en 1967, se rend en voyage officiel en Pologne. C'est l'ami de votre grand-père et vous aurez ainsi l'opportunité de le rencontrer pendant ce voyage. Cette même année, vous serez dans le bureau du colonel Abdel Nasser au moment où il apprend que sa marine vient de couler un bâtiment israélien. Vous pouvez lire le désarroi sur son visage, car il envisage déjà les représailles qui vont s'abattre sur son pays. Le même jour, la ville de Suez sera bombardée. Mai 68. De retour à Paris, après un long voyage en Asie du Sud-Est, vous êtes parmi le petit nombre de photographes qui va couvrir les événements. Vous vous engagez pour ces idées aux côtés de Louis Malle, Alain Resnais, Jean-Luc Godard. La télévision et les médias étant tous en grève, ces photos auront une importance exceptionnelle pour apporter l'information en province. Avec votre ami Chris Marker, vous les diffuserez en inventant le concept du cinétract. En 1973, le président Pompidou est le premier chef d'État occidental à se rendre en Chine. Vous l'accompagnez et obtenez, fait extraordinaire, l'autorisation de prolonger votre visa. Vous rencontrerez le président Chou Enlai et Madame Mao et rapporterez des clichés aujourd'hui rares et précieux de cette époque, les gardes rouges en Chine ayant détruit toutes les photos. Après avoir connu la révolution culturelle, vous ne cesserez de retourner en Chine, témoin de l'évolution du pays et des modes de vie de ses habitants. Toujours en vous attachant à la poésie de l'instant. Vous rencontrerez tout au long de votre vie des situations et des personnages exceptionnels. Le Shah d'Iran, l'imam Khomeini, Salvador Allende, Yasser Arafat, Lech Walesa, le président Obama. Et en 1970, vous avez la chance et le grand bonheur de rencontrer Caroline. Elle termine ses études de japonais à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous l'épouserez 5 ans plus tard et elle ne cessera d'embellir votre vie. Vous appartenez à une famille unie avec 2 frères et 2 sœurs. Vous rejoignez une famille tout aussi unie. Caroline a 5 frères. Ils forment un véritable clan. Lorsque vous reviendrez de vos voyages, vous retrouverez votre maison parisienne, les chasses en Champagne et la montagne au-dessus de Calvi où se développe, invisible car intégrée dans un vaste territoire, chacune des maisons des membres de votre famille. Aurélie, votre fille, forme avec son mari un couple d'architectes-artistes. Ils ont 3 adorables petites filles que vous choyez. L'aînée de vos petites filles, atteinte de la maladie du syndrome de Rett, apporte tout spécialement de la profondeur et de la justesse dans la compréhension et l'acceptation de la vie. Votre fils Igor, après avoir été conquis par la littérature, a aussi développé l'intelligence de sa main dans l'art de la menuiserie. Il réalisait ainsi des décors pour le théâtre. Depuis presque 50 ans, Caroline et vous formez un couple soudé. Non seulement Caroline, dans le cadre de son métier de réalisatrice, tourne des films sur vous et votre art, mais c'est également elle qui prépare vos voyages, vos reportages. Elle conserve votre œuvre, suit son édition et sera la commissaire de nombreuses de vos expositions. Car vous êtes un photographe au long cours, un baroudeur, mais pas à la recherche du scoop. L'évolution des hommes dans chacun de leurs pays vous intéresse et vous irez partout dans le monde à leur rencontre. Ainsi, après être allé une première fois en Pologne, vous y retournerez 10 ans plus tard. Vous prenez un visa de touriste pour conserver votre liberté et, accompagné de votre femme et de votre fille, vous partez en camping-car pendant plusieurs semaines. Vos photos utilisent souvent le décalage entre les sujets représentés. la population des villes triste et désespérée, avec en arrière-plan des sculptures et des monuments glorifiant le monde rêvé du communisme, joyeux et conquérant. Vous ferez découvrir le monde des paysans polonais qui vivent alors avec les moyens, les valeurs, la culture d'il y a 200 ans. Vous serez là aussi, en 1981, auprès des fondateurs de Solidarnosc, dont certains deviendront vos amis. Puis, en 1983, vous suivrez le pape polonais Jean-Paul II lors de sa visite, suivant les manifestations monstres qu'elle engendra dans tout le pays, qui se mettent à marcher, montrant toute l'ambiguïté qui existe entre le régime en place et sa population. L'on dira de vous que votre chance, votre intuition vous porte au bon moment et avant tout le monde, là où il faut être, où les choses se passent. Bien que vous vous trouviez dans de multiples combats, que vous ayez été le seul photographe qui ait pu se rendre à An Loc, au Vietnam, pendant cette si meurtrière bataille, que vous ayez assisté au siège de Phnom Penh par les Khmers Rouges, la guerre, direz-vous, n'est pas votre tasse de thé. Annick Cogent vous cite. Je suis plus attiré par la beauté, l'humain, le positif. Je ne me plais pas dans le sordide. Je préfère capturer une ombre étonnante sur une belle couleur que photographier une scène de guerre. Je refuse l'esthétisme de la folie et de l'horreur. C'est cependant une photo liée à la guerre du Koweït qui est devenue une icône de votre travail, la plus publiée de la guerre du Golfe. On y retrouve la couleur et ce décalage qui vous est cher entre le sujet au premier plan et le fond de la photo. À l'horizon, une vision apocalyptique des 450 puits de pétrole en feu sabotés par Saddam Hussein. La terre brûle, le ciel est noir et, au premier plan, sur un véhicule militaire arborant fièrement le drapeau américain, de jeunes marines déterminés et conquérants semblent partir vers de nouveaux désastres. Chez vous, plus que la capture de l'instant, la photographie se fait souvent travail de mémoire, a écrit Carole Nagar. Vous souhaitez témoigner du monde. Vous portez en effet une attention particulière à la transmission de votre travail. La mémoire est ce qui vous motive. Tout d'abord, dans le choix du support, vous avez travaillé, on l'a dit, jusqu'à la naissance du numérique avec de la pellicule Kodachrome 2, très lente et compliquée à développer, mais qui ne s'altère pas avec le temps et conserve intactes les couleurs. Et ainsi, votre œuvre est parfaitement classée, conservée dans son état d'origine. Toujours attentif à cette transmission, vous avez, depuis votre jeunesse, veillé, avec Caroline, à la bonne diffusion de vos photos, choisissant leur publication et vos éditeurs. Vous aimez les écrivains, et à l'âge de 20 ans, vous n'avez pas hésité à sonner à la porte d'Alberto Moravia, que vous ne connaissiez pas, dans son appartement de Rome, Piazza Navone, qui vous a reçu et avec lequel vous avez discuté toute une après-midi. Vous deviendrez ami avec Bernard Guetta, journaliste au Monde, lors de vos voyages en Pologne, avec lequel vous publierez un livre. Vous rencontrez Jean Genet dans les camps palestiniens et il rédigera un texte accompagnant vos photos qui fera scandale. Deux prix Nobel ont préfacé vos ouvrages. Czesław Miłosz, pour votre livre sur la Pologne, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui, avec sa femme Génia, préfaceront un livre sur le Maroc et avec lequel vous illustrerez Jean des Voyages. Ami de longue date, Tahar Benjelloun, inspiré par votre art, a écrit des poèmes sur certaines de vos photos italiennes. Il traduit avec justesse, par ses mots, le sens et les émotions que vous avez exprimées de votre côté par l'image. Il écrit, je cite, cette femme brillait d'amour du soir au matin. Elle dansait, chantait et faisait des enfants. Aujourd'hui, elle porte le deuil de la vie. Sa peau est trop chargée de souvenirs. Alors, elle est assise au seuil de l'église. Elle attend l'ange qui la couchera dans l'herbe mouillée. En reprenant les mots de Jean-Luc Monterosso, que ce soit dans le photojournalisme, dans l'utilisation de la couleur, dans l'approche photographique singulière qui vous caractérise, vous faites figure de précurseur. C'est aussi et surtout un grand artiste, plein d'humanisme et de poésie, que nous accueillons aujourd'hui sous cette coupole au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour, Monsieur Barbet. Bienvenue.
Merci. Merci Alain Charles Perrault. Avant de vous écouter, cher Bruno Barbet, vous avez souhaité que nous entendions le prélude de la sixième suite de Jean-Sébastien Bach, interprété par Gérard Cosset. Gérard Cosset, qui est celui qui a donné ses lettres de noblesse à l'alto dans notre pays. Gérard Cosset. Merci, merci Gérard Cosset pour cette magnifique interprétation de la transcription pour alto du prélude de la sixième suite de Jean-Sébastien Bach. Alors, l'usage et les statuts de notre compagnie veulent que chaque nouvel académicien prononce l'éloge posthume de son prédécesseur et rappelle sa vie et ses travaux. Or, cas tout à fait particulier, mon cher Bruno, ce prédécesseur n'existe pas puisque vous avez été élu sur un nouveau fauteuil créé par décret et comme l'avait fait en pareille circonstance lors des séances d'installation, de leur propre séance d'installation, nos regrettés confrères l'architecte Yves Boiré, qui vient tout juste de nous quitter, ou Lucien Clergue, qui a inauguré votre section. Je vous propose donc, cher Bruno, de nous parler de votre métier tel que vous le voyez aujourd'hui et de votre art, la photographie. Vous avez la parole.
Merci. Nous étions, il y a quelques minutes, dans un lacis de ruelles inondées de soleil, dans la médina de Fès, immobile, immortelle. Nous voici maintenant sous la coupole de l'Institut, au cœur d'un des quartiers de Paris les plus chargés d'histoire, photographié des dizaines de milliers de fois. C'est pour moi un honneur auquel je suis particulièrement sensible d'être accueilli dans cette enceinte prestigieuse et d'y être accueilli par vous, cher Alain-Charles Perrault, qui avait su, avec tant d'amicale bienveillance, de justesse et de délicatesse, rappeler mes origines, expliquer mon itinéraire et mettre l'accent sur ce qui, à vos yeux, constitue la singularité de mon travail. Votre jugement me touche d'autant plus qu'il s'est formé au cours de nos rencontres dans l'antique maison de pêcheurs que vous avez restaurée dans le Cap Corse, à quelques dizaines de kilomètres de Calvi, Calvi où chaque fois que j'en ai la possibilité, je viens avec ma femme Caroline séjourner le plus longtemps possible sur le bord de mer qui est devenu ma seconde patrie et où je peux me livrer à mon divertissement préféré, la chasse sous-marine. Je dois préciser que j'ai toujours strictement séparé mes activités de loisirs de mon activité professionnelle. Je n'ai jamais pris de photos sous-marines, bien que j'incline à penser qu'il existe une parenté secrète entre la chasse sous-marine et la photographie. Comme la langue française nous invite à le croire, puisqu'on prend un poisson comme on prend une photo. Cet attachement partagé à la Corse, cette île que les Grecs appelaient Calice la plus belle, ajoute au plaisir de vous écouter et rend plus léger le devoir de vous répondre. Il y a près de 2 siècles, l'année de la création de l'Académie des Beaux-Arts, Niepce obtenait au fond d'une chambre noire ses traces du réel, ses premières rétines, comme il nommait ses feuilles de papier sensibilisées au bétume de Judée. Il pouvait, quelques années plus tard, annoncer le résultat de son invention, à laquelle il donnait le beau nom d'héliographie, que les hellénistes de ce temps-là reconnaissaient comme l'écriture par le soleil. Mais la photographie n'est entrée dans les préoccupations officielles du ministère de la Culture, qui avait succédé au ministère des Beaux-Arts, qu'en 1975. Ma sœur Adélaïde, qui avait fait partie du cabinet de Michel Guy, me l'a rappelé. À la même époque, dans les années 70, à la suite des rencontres d'Arles fondées par Lucien Clergue et que Jean-Noël Jeannenet a présidé pendant de nombreuses années, des galeries spécifiquement dédiées à la photographie se sont ouvertes, des festivals ont été organisés dans de nombreuses villes. Pourtant, il a fallu 2 siècles pour que la photographie soit reconnue comme un des beaux-arts, alors que le cinéma, son cadet de 3/4 siècle, était couramment qualifié de 7e art dès la première moitié du XXe siècle. Comme les autres arts, la photographie a connu des révolutions, mais les progrès continus des techniques y ont joué un rôle beaucoup plus important. Lorsque j'ai débuté dans mon métier, l'argentique était encore en usage et bien entendu le numérique non seulement n'existait pas, mais était inconcevable. Le progrès des techniques, le progrès des différentes techniques utilisées par la photo ont eu notamment pour conséquence de mettre un appareil photo entre les mains d'un très grand nombre d'utilisateurs, l'amélioration constante de la qualité technique des prises de vue, indépendamment de la compétence de l'utilisateur, s'est traduite par la prise de milliards de photos que presque personne ne regarde et qui finissent oubliées et abandonnées comme les emballages en plastique dans l'océan Pacifique. Trop de photos tuent la photo, titré récemment le journal Le Monde, exprimant dans un raccourci saisissant le sentiment d'agression qui naît de la multiplication démesurée des photos dans l'espace public des grandes villes. Il n'échappera cependant à personne que si la photographie a été élevée au rang des beaux-arts, ce n'est pas parce qu'elle a connu une extension sans fin. C'est parce qu'elle peut exprimer, à travers l'infinie diversité des représentations du monde, une unité, une singularité dont on reconnaît immédiatement l'auteur, comme on identifie un compositeur dès les premières mesures d'un concerto, d'un quatuor ou d'une sonate. Déjà au milieu du XIXe siècle, Walter Benjamin décrivait la dégénérescence de la photo. Ainsi, il nous dit, au moment même où il fut donné à Daguerre de fixer les images de la caméra obscura, le technicien congédia le peintre. Pourtant, la véritable proie de la photographie ne fut pas la peinture de paysage, mais le portrait en miniature. Le phénomène se développa si vite que, dès 1840, la majorité des innombrables peintres miniaturistes devinrent d'abord accessoirement et bientôt exclusivement photographes professionnels. Mais finalement, des commerçants issus de tous les métiers se jetèrent sur le statut de photographe professionnel et dès lors que se généralisa la retouche sur négatif, procédé par lequel le mauvais peintre se vengeait sur la photographie, on assista à un brusque déclin du goût. C'était l'époque où les albums de photographie commençaient à se remplir. On les trouvait, de préférence, aux endroits les plus glacés de la maison, posés sur la console ou le guéridon de la chambre d'amis, relié de cuir noir, avec d'horribles fermoirs en métal et des pages dorées sur tranches, épaisses comme le doigt, où étaient distribuées des figures drapées ou fagotées comme des bouffons. Le portrait de Kafka enfant est sans doute une des illustrations les plus emblématiques de ce dévoiement de la photographie. La disparition du monde dans lequel je suis né, les révolutions successives auxquelles j'ai assisté, n'ont pas entamé les sentiments profonds qui m'attachent depuis un demi-siècle à mon métier, qui demeure encore aujourd'hui une vocation professionnelle comme l'a si bien exprimé Alain-Charles Perrault. La consécration que représente mon entrée solennelle dans notre compagnie me conduit à m'interroger sur le sens de cette vocation que nous, tous académiciens, nous partageons, mais que chacun de nous, j'en suis conscient, vit d'une manière personnelle. Je ne pense pas m'attirer l'opprobre de mes collègues peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs ou réalisateurs en affirmant que la photographie est le seul des beaux-arts dont le champ d'application s'étend à l'univers tout entier, des galaxies au fond des océans. Il est aussi le seul, tel que je l'ai pratiqué avec quelques-uns de mes confrères, qui exige un engagement total et l'acceptation de la mise en jeu de l'existence. Mais je ne voudrais pas retenir que la façon de la photographie. Cet engagement total, je l'ai accepté, je l'ai assumé, et je n'aurais certainement pas pu m'y tenir pendant d'aussi longues années sans traverser de douloureuses et sans doute fatale période de découragement. Et surmonter tout ce qui menace l'exercice solitaire d'une discipline exigeante et aléatoire, si je n'avais pas eu à côté de moi la compagne de ma vie, ma femme Caroline, qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles et a partagé mes espoirs et mes craintes. Caroline a été aussi un observateur attentif et un critique vigilant de mes projets et de mes travaux, dont elle a enregistré une grande partie dans une série de films, témoins précieux de notre collaboration, qui sont une minutieuse analyse de la face cachée de mon travail et une partie irremplaçable de ma mémoire. Je citerai en particulier le travail qu'elle a réalisé en Pologne, où nous avons vécu pendant plus d'un an en mobile home et où elle a réalisé un film pour la télévision intitulé « Le pouvoir et la croix ». Alors que de mon côté, je préparais avec Bernard Guetta un livre sur ce pays en proie aux premiers ébranlements de la forteresse soviétique. Si la photographie a conquis ses lettres de noblesse et une place éminente dans la cité, c'est aussi parce qu'elle a eu ses croyants, ses fidèles. Ils ont été et sont nombreux. Je choisis de rendre aujourd'hui un hommage particulier en mon nom et au nom de mes collègues qui les ont connus à deux de ces pionniers qui, par leur compétence et leur détermination, ont contribué à imposer la photo dans la cité. Tout d'abord à Jean-Luc Monterosso, que j'ai le plaisir de remercier de vive voix, puisqu'il est parmi nous aujourd'hui. Il a créé et dirigé dès 1992 l'institution universellement reconnue et la Maison européenne de la photographie, émanation de l'association Paris Audiovisuel, créée en 1978 sous la présidence d'Henri Chapier et aujourd'hui de Jean-François Dubos, que je remercie également pour leur présence aujourd'hui. Par ses acquisitions et ses expositions, cette maison que le grand public n'a pas tardé à nommer familièrement la MEP, contribue depuis un quart de siècle à promouvoir la photographie dans tous ses états, tendances et courants. Il a été aussi le créateur, dès 80, de la Biennale du mois de la photo à Paris, initiative particulièrement féconde qui a été reprise par de nombreuses capitales et mégalopoles à travers le monde. Et il a aussi récemment accueilli ma rétrospective Passage, qui est en quelque sorte l'illustration de ce que vous avez bien voulu rappeler, cher Alain Charles. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier à Robert Delpire, qui nous a quittés l'automne dernier. Successivement publicitaire, Éditeur, producteur de films et directeur de musée, Robert Delpire avait pris le temps d'examiner les tirages de mes photographies d'Italie. La photographie d'auteur, qui était encore loin de connaître une audience auprès du grand public, le passionnait. Il venait de publier le livre « Les Américains » de Robert Franck et préparer « Les Allemands » avec René Bourri. Mes photographies feraient la matière d'un troisième titre, tout trouvé, les Italiens. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises autour de la maquette de l'ouvrage. J'avais une vingtaine d'années. Il avait un œil très sûr. Ses commentaires m'éclairaient. Il venait de produire un long métrage de William Klein, « Qui êtes-vous, Polymagou ?» Ce film, qui avait connu à sa sortie une audience confidentielle et conduit les éditions Delpire à renoncer à certaines réalisations, est devenu un film culte du cinéma d'art et d'essai. J'ai donc plaisir à rendre hommage aujourd'hui à son esprit d'invention qui a contribué à faire connaître et aimer la photographie par un large public, notamment à travers la collection Photopoche, anthologie de précieuses petites monographies. C'est aussi grâce à lui qu'a commencé mon aventure au sein de Magnum Photo. Il a signalé mon travail sur l'Italie aux deux photographes parisiens de l'époque, Henri Cartier-Bresson et Marc Riboud. Enfin, je ne voudrais pas terminer ces hommages sans citer Edmonde Charleroux, rédactrice en chef de l'édition française de Vogue, que la culture, l'aventure d'esprit et la curiosité avaient amené à consacrer la moitié des pages de son magazine à l'actualité culturelle et à passer des commandes dont j'ai été en particulier le bénéficiaire. Enfin, si la photo peut exprimer instantanément par sa composition ou sa mise en scène une émotion et la compréhension d'un événement avec une puissance qu'aucune description littéraire ne peut égaler, elle peut aussi harmonieusement accompagner des textes ou des poèmes. J'ai beaucoup parlé du passé, c'est la loi du genre. Cependant, je ne voudrais pas terminer ce discours sans me tourner vers l'avenir. Nous sommes des passeurs. Avec Yann Arthus-Bertrand, Sébastien Salgado, Jean Gomi, ainsi que Bernard Perrine et Agnès Gouvion de Saint-Cyr, nous avons d'ores et déjà engagé des actions pour encourager et aider la photographie en créant de nouveaux prix destiné à la photographie, ceci à l'exemple du prix Marc Ladrette de la Charrière, le prix de la Charrière, Académie des Beaux-Arts. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui, pendant de longues années, m'ont apporté leur soutien, ont accepté les sacrifices qu'implique ce métier. En premier lieu, ma femme Caroline, mes enfants et leurs conjoints, mes frères et sœurs, et tous mes proches qui m'ont toujours témoigné une grande indulgence et m'ont entouré de leur affection. Un remerciement ému à Gérard Cosset pour sa brillante interprétation des préludes de Bach sous cette noble coupole. Je vous remercie.